Conan Doyle, l'entonnoir de cuir. Mon ami Lionel Docre vivait à Paris. Il occupait avenue de Wagram cette belle maison précédée d'une pelouse et d'une grille qu'on apercevait de la gauche en descendant de l'Arc de Triomphe et qui devait, je présume, exister dès avant la percée de l'avenue, car le lichen en dévorait les tuiles grises et l'âge en marbrait de rouille les murs décolorés. Grande d'apparence, avec ses 5 fenêtres de façade, elle s'approfondissait à l'arrière en une chambre unique. Et c'était là que Dacre avait installé, en même temps que son étrange bibliothèque, tous les objets fantastiques où sa manie et la gaieté de ses amis trouvaient également à se satisfaire. Riche et d'humeur excentrique, il avait consacré une notable partie de sa vie et de sa fortune à former une collection réputée unique d'ouvrages sur le Talmud, la Kabbale et la magie. Il imaginait, par nature, vers le merveilleux et le monstrueux. Et je m'étais laissé dire que ses recherches dans la voie de l'inconnu avaient franchi les limites du permis et de l'honnête. Vis-à-vis de ses compatriotes, il s'abstenait de toute allusion à ces sortes de choses, se donnait le ton d'un savant et d'un dilettante, mais un Français de goûts analogues m'a certifié que les pires excès de la messe noire était perpétré dans ce spacieux et haut réduit où s'étageaient ses livres et ses vitrines. On devinait au seul aspect de Dacre que l'intérêt qu'il portait aux questions psychologiques était d'ordre intellectuel plus que moral. Sur ses traits lourds, nulle trace d'ascétisme, mais beaucoup de force mentale dans l'ampleur de sa coupole crânienne qui s'incurvait par-dessus les minces touffes de ses cheveux comme une cime neigeuse par-dessus un liseré de sapin. Il avait plus de savoir que de sagesse et plus de moyens que de caractère. Ses grands yeux brillants, profondément enfoncés dans sa figure charnue, pétillaient d'intelligence et trahissaient une infatigable curiosité de la vie. Mais c'étaient les yeux d'un sensuel et d'un égoïste. Passons, il est mort, le pauvre diable, mort au moment même où il se croyait certain d'avoir découvert l'élixir de vie. Et ce n'est pas la complexité de son caractère qui m'occupe ici, mais l'incident très étrange et tout à fait inexplicable qui marqua ma visite chez lui au premier jour du printemps de 1882. J'avais connu Dacre en Angleterre lors de mes recherches dans la section assyrienne du British Museum. Lui-même, en ce temps-là, s'efforçait de trouver un sens mystique et ésotérique aux tablettes babyloniennes. Cette communauté de préoccupations nous rapprocha. Quelques remarques de hasard nous conduisirent à des conversations quotidiennes, puis à des relations voisines de l'amitié. Je dus lui promettre de ne pas faire un séjour à Paris sans aller l'y voir. Le jour où je pus tenir ma promesse, j'habitais un chalet à Fontainebleau. Les trains du soir étaient peu commodes et il me demanda de passer la nuit dans sa maison. Je l'ai en fait de lit, que ceci de disponible, dit-il, en me désignant un vaste sofa dans son salon. J'espère que vous vous en arrangerez le mieux possible. Singulière chambre à coucher que cette pièce au mur très élevé, et toute garnie de volumes. Au demeurant, il ne pouvait y avoir de plus agréable qu'un bouquineur de son espèce, car aucun parfum ne flattait mes narines autant que la fade et suide odeur des vieux livres. J'assurai Dacre qu'il m'offrait la chambre de mes rêves, le cadre selon mes voeux. Si l'installation que voici n'a tenu compte ni des conventions ni des convenances, elle a coûté fort cher, dit-il en inspectant d'un coup d'œil les rayons. J'ai dépensé près d'un quart de million pour les objets qui vous entourent. Bouquins, armes, joyaux, sculptures, tapisseries, estampes, il n'y a rien qui n'ait son histoire, et une histoire digne d'être contée. Il s'est assis tout en parlant à l'un des coins de la cheminée, et j'avais pris de place à l'autre. Sur une table de lecture, la lumière d'une forte lampe inscrivait un rond doré. Un palimpseste à demi-roulé était posé au centre. Tout un bric-à-brac fantasque s'éparpillait alentour. Et là se trouvait notamment un large entonnoir, du genre de ceux qu'on emploie pour remplir les futailles. Il semblait fait de bois noir et garni au bord d'un cercle de cuivre terni. Non, voilà, remarquai-je, un objet curieux, mais quelle en est l'histoire? Bien, je me suis demandé, et je donnerais beaucoup pour le savoir, dit Dacre. Prenez l'entonnoir, examinez-le. Je fis comme il disait, et constatai que ce que je croyais du bois était du cuir, mais terriblement racorni par l'âge. L'entonnoir pouvait tenir un litre. Outre sa bordure de cuivre, à la circonférence, il portait un bout de métal à son orifice inférieur. « Qu'en pensez-vous ? » me dit mon ami. Je croirais volontiers, répondis-je, qu'il dût appartenir à quelque cabaretier ou mailleur de l'ancien temps. J'ai vu en Angleterre des brocs en cuir du XVIIe siècle, des black jacks, comme on les appelait. Ils étaient de couleur identique et aussi durs. Oh, l'entonnoir date vraisemblablement de la même époque. Mais, si mes soupçons ne me trompent, c'est un cabaretier peu banal que celui qui en faisait l'usage. Et quel usage! N'observez-vous rien de bizarre à l'extrémité du tuyau? Je portais l'objet à la lumière et je constatais qu'à 5 ou 6 cm du bout de bord de cuivre, le col étroit de l'entonnoir était sillonné d'écorchures et d'entailles, comme si quelqu'un eût tracé des encoches avec une lame ébréchée. On sentait à cet endroit un léger assoisissement de la surface dure et noire. Oh, quelqu'un a essayé de couper le tuyau. Pouvez-vous dire couper? Non, c'est déchirer et lacérer. Quelque instrument dont on se serait servi, il a fallu de la vigueur pour emporter de telles marques sur une matière aussi résistante. N'est-ce pas votre avis? Vous en savez là-dessus plus que vous me le dites. Dacre d'un sourire, et je vis dans ses yeux le regard de l'homme qui sait. « Avez-vous, demanda-t-il, compris dans vos études la psychologie des songes ?»« J'ignorais qu'il y en eût une. »« Mon cher monsieur, ce rayon là-bas, au-dessus de la vitrine aux pierres précieuses, est garni d'ouvrages, à commencer par ceux d'Albert le Grand, qui ne traite pas d'autre chose. » C'est toute une science. Bon, une science de charlatan. Le charlatan est toujours le précurseur. De l'astrologue procède l'astronome, de l'alchimiste le chimiste, du magnétiseur le psychologue expérimental. L'empirisme d'hier est le professeur de demain. Les phénomènes subis et illustres, isoires comme les songes, s'ordonneront d'eux-mêmes un jour et se réduiront en système. Les recherches des amis, dont les livres s'indiquent sur cette planche de bibliothèque, auront cessé alors d'amuser les mystiques pour devenir les fondements d'une science. Soit, mais qu'est-ce que la science des songes peut avoir à faire avec un entonnoir large et noir et cerclé de cuivre? Je vais vous le dire. Vous savez que j'ai un agent toujours en quête de pièces rares pour ma collection. Il a appris ces jours derniers qu'un brocanteur des quais s'était rendu acquéreur de quelques antiquailles d'un fonds de placard provenant d'une vieille maison dans ce quartier latin. La salle à manger de cette archaïque demeure est décorée d'armoiries qui, vérification faite, sont celles d'un haut fonctionnaire de Louis XIV, Nicolas de la Reynie, et incontestablement, les objets du placard dans les premiers temps du règne de Louis XIV. D'où il s'ensuit qu'ils appartinrent à Nicolas de la Reynie, dont la charge, autant que je sache, consistait à maintenir et à appliquer les lois draconiennes de l'époque. Mais ensuite, reprenez l'entonnoir, examinez-le de nouveau, examinez la borne de cuivre, et voyez si vous y décernez quelque chose comme des lettres. Assurément, le métal portait des marques, mais presque effacées. Dans l'ensemble, cela faisait l'effet de caractère alphabétique, dont le dernier offrait quelques ressemblances avec un B. Vous croyez à un B? Oui, j'y crois. Moi aussi. Mais à dire vrai, je n'en doute pas le moins du monde. Mais le gentilhomme dont vous parlez avait un R pour initiale. Parfaitement. Et c'est la beauté du problème. Il possédait ce curieux objet, mais marqué à des initiales étrangères. Pourquoi? Je n'en ai pas d'idée, vous. Moi, peut-être. Remarquez-vous une espèce de dessin le long du cercle? Oui, on dirait une couronne. Mais c'en est une. Et en l'examinant à une bonne lumière, vous vous convaincrez que ce n'est pas une couronne quelconque, mais une couronne héraldique, un signe du rang. Et quatre perles alternantes avec des feuilles d'ache, l'emblème du marquisat. Nous en déduirons que la personne dont les initiales finissent par un B avait qualité pour porter cette couronne. Alors ce vulgaire entonnoir appartenait à un marquis? Un sourire ambigu flotta sur les lèvres de Dacre. Ou quelques personnes de la famille d'un marquis, dit-il. C'est ce que démontrent clairement les marques de ce cercle. Mais quel rapport cela a-t-il avec les songes? J'ai dû aux songes plus d'une information importante, me déclara mon ami sur ce ton didactique qu'il affectait volontiers. Aujourd'hui, toutes les fois que j'ai un doute sur un point de fait à propos d'un objet quelconque, je place cet objet près de moi. Quand je me couche, et j'en entends un éclaircissement. Et ce qui se passe ne me paraît pas très obscur, bien que, n'ayant pas encore reçu la consécration de la science orthodoxe. Mais d'après ma théorie, tout objet qui s'est trouvé associé à une émotion humaine, joie ou douleur, porte à son paroxysme, en garde une certaine atmosphère, une certaine facilité d'association susceptible de se communiquer à un esprit sensible. Oh, par esprit sensible, je n'entends pas un esprit anormal, mais un esprit façonné par l'éducation, comme le vôtre ou le mien. Ah, vous voulez dire, par exemple, que si j'avais près de moi, en dormant, la vieille épée fixée à votre mur, je rêverais de quelque sanglante affaire où elle joue son rôle. Oui, excellent exemple. Car le fait est qu'en ayant usé de la sorte avec cette épée, j'ai vu dans mon sommeil la mort de son maître, tué dans une échauffourée que je n'ai pas pu identifier, mais qui se produisit avant la fronde. Songez-y donc. Certaines de nos coutumes populaires montrent que le phénomène était connu de nos ancêtres, qu'il avait dans la sagesse classé au nombre des superstitions. Ainsi notamment, oui, l'image, l'usage de placer derrière l'oreille le gâteau de la mariée, afin que le sommeil lui procure de bons rêves. C'est une des preuves multiples que j'invoque, comme vous le verrez, dans une plaquette que je suis en train d'écrire. Et pour en revenir à notre entonnoir, je le pris une nuit à bon côté en me couchant, et j'eus un rêve qui, certainement, jette un jour singulier sur sa fonction et sur son origine. Et qu'avez-vous donc rêvé ? J'ai rêvé. Et une soudaine inspiration anima sa figure massive. Eh bonne idée, ben chauve, dit-il. Voilà une jolie expérience à faire. Vous devez être un excellent sujet psychique, avec des nerfs qui répondent vivement à l'impression. Oh, je ne me suis jamais mis à l'épreuve. Eh bien, nous allons nous y mettre. Puis-je vous demander de vouloir bien, quand vous serez couché là, cette nuit, avec ce vieil entonnoir près de votre oreiller? La requête me sembla grotesque. Mais j'ai, moi aussi, dans ma complexe nature, la soif du bizarre et du fantastique. Alors, je n'accordais aucun crédit à la théorie de Dacre. Je ne mettais pas le moindre espoir dans l'issue d'une pareille expérience, et ça m'amusait pourtant que l'expérience fût faite. Dacre, le plus gravement du monde, disposa à la tête du sofa une petite place où il mit l'entonnoir. Puis, après un bout de causette, il me souhaita une bonne nuit et me laissa seul. Devant le feu qui brûlait sans flamme, je restai quelque temps à fumer, tout en retournant dans mon esprit le curieux incident survenu et l'étrange expérience en perspective. Nonobstant mon scepticisme, je ne laissais pas d'être un peu troublé par l'assurance de Dacre. Et ce décor insolite, cette énorme chambre peuplée d'objets extravagants, souvent sinistres, me disposait aux graves pensées. Je me dévêtis enfin, soufflai ma lampe et m'allongeai. Et voici, fidèlement décrite, la scène que je vis en rêve. Elle s'évoque dans mon souvenir plus nette qu'aucun autre dont je fus le témoin éveillé. J'étais devant une espèce de salle basse. Quatre arcs s'élançant des côtés se rejoignaient pour en soutenir la voûte concave. L'architecture en était rude, mais puissante. Cette salle faisait évidemment partie d'un grand édifice. Trois hommes en noir, coiffés de toques en velours, évasés dans le haut, siégeaient sur une estrade tendue de rouge. À leur gauche se tenaient debout des hommes en longue robe portant des serviettes qui semblaient bourrées de volumineux dossiers. Et à leur droite, et me faisant face, une femme, petite et blonde, avec des yeux d'azur limpide, des yeux d'enfant. Elle avait passé la première jeunesse sans qu'on pût dire qu'elle avait atteint l'âge mûr. Solidement bâtie, elle respirait l'orgueil et la confiance. La peur n'altérait pas la sérénité de son visage. Le curieux visage, avenant et félin tout ensemble, avec une pointe de subtile cruauté dans la bouche droite et forte dans les mâchoires grasses. Elle avait une sorte de robe blanche très flottante. Un prêtre l'assistait. Maigre et fervent, il ne cessait pas de murmurer des mots à l'oreille et de bondir devant elle un crucifix. Elle, cependant, détournait la tête et par-dessus le crucifix, attachait obstinément ses regards sur les trois hommes en noir que je compris être ses juges. Comme je considérais ce spectacle, les trois hommes se levèrent. Il y eut quelques paroles dites, mais je n'en pus distinguer aucune, bien que j'eusse conscience que c'était l'homme du milieu qui parlait. Puis tous les trois quittèrent la salle, suivis des deux porteurs de dossiers. Au même instant, plusieurs gaillards de mine sévère, bien décuplés dans de solides justes au corps, entrèrent fort affairés. Ils enlevèrent d'abord les tentures rouges, puis les charpentes de l'estrade, de façon à débarrasser complètement la salle. Cet écran ôté, les meubles surprenants apparurent. L'un d'eux semblait un lit avec des roulettes de bois à chacune de ses extrémités et une manivelle pour en régler la longueur. Un deuxième avait l'air d'un cheval de bois. Je remarquai un certain nombre d'autres tout aussi spéciaux et de quantités de cordes suspendues à des poulies. Cela faisait assez l'effet d'un gymnase moderne. Un nouveau personnage fit alors son entrée en scène. Tout en noir, il était grand, mince, avec des traits tirés et austères. Oh, sa seule vue me donna le frisson. Des taches constellaient ses vêtements, tout lustrés de graisse. Il manifestait une dignité lente qui me frappa comme s'il eût pris un commandement dans son entrée. Et en dépit de son physique grossier et de sa tenue sordide, c'était son affaire, sa place, son service. Il portait à son bras gauche un couteau, un rouleau de corde légère. La dame le toisa d'un regard interrogateur, mais sans que rien n'émût sur son visage, qui continua d'exprimer la confiance et même le défi. Au contraire, le visage du prêtre se couvrit d'une pâleur mortelle, et sur son front qui s'inclinait, je vis la sueur perler. Il leva les mains dans un geste de prière, et penché, marmottait sans trêve des mots éperdus à l'oreille de la dame. S'avançant vers elle, l'homme en noir prit à son bras gauche une des cordes dont il lui ligota les mains. Elle les lui tendait avec douceur. Alors, une poignée brutale, il la saisit par le bras et la conduisit vers le cheval de bois qui lui allait un peu plus haut que la ceinture. On la hissa sur le cheval, on lui coucha sur le dos, tandis que le prêtre, frémissant d'horreur, prenait la fuite. Un mouvement rapide animait les lèvres de la femme. Sans en entendre, je savais qu'elle priait. Elle avait les jambes ballonnes des deux côtés du char. Je m'aperçus que les ailes lui avaient noué au poignet des cordes dont ils avaient assujetti les outils à des anneaux de fer fixés aux dalles. Le cœur me battait à rompre, tandis que je suivais ces lugubres préparatifs. Mais, fasciné par l'atrocité du spectacle, je n'en pouvais détacher les yeux. Un homme survint, portant de chaque main un baquet d'eau, puis un autre homme portant un seul baquet. Ils se rangèrent de compagnie à côté du cheval de bois. Le second des deux hommes, dans la main qui ne portait pas de baquet, avait une sorte de grande cuillère en bois à long manche. Il la fit passer à l'homme en noir. Immédiatement, l'un des aides s'approcha, tenant un objet de couleur brune, que même dans mon rêve, je crus vaguement reconnaître. C'était un entonnoir de cuir. Avec une affreuse énergie, il en mit le tuyau. Mais je ne pus en supporter davantage. Mes cheveux se hérissaient sur ma tête. Je mis à me tordre et à me débattre. Tellement que, brisant les liens du sommeil, je réintégrais dans un cri aigu ma vie réelle et me retrouvais convulsé d'épouvante dans l'immense bibliothèque, où sur le mur opposé à la fenêtre, le clair de lune tenait un capricieux réseau de taches claires et sombres. Ah ! Le soulagement que j'éprouvais à me sentir revenu en plein 19e siècle, évadé d'entre ces voûtes contemporaines du Moyen-Âge, rentrer dans un monde où les hommes avaient un cœur d'homme dans leur poitrine. Je me dressais sur ma couche, frissonnant de tous mes membres, l'esprit partagé entre l'horreur et la gratitude. Penser que de telles choses se fussent accomplies, eussent jamais pu s'accomplir, sans que Dieu frappât de mort les coupables. La fantaisie d'un songe m'abusait-elle, ou si vraiment quelque chose de pareil était arrivé au jour noir et cruel de l'histoire? Je plongeais dans mes mains qui tremblaient, mes tempes palpitantes, et soudain je crus que mon cœur s'arrêtait. Le saisissement ne me laissait plus la force d'émettre un son. Une ombre venait vers moi le long de la chambre obscure, et incapable de raisonner et de crier, je demeurais là comme pétrifié, regardant l'ombre s'approcher à travers la vaste chambre. Elle coupa le chemin blanc, frayé par le clair de lune. Et alors, je repris haleine, j'avais reconnu Dacre. Son visage me le montrait aussi effrayé que moi. Est-ce vous? Pour l'amour de Dieu, qu'avez-vous? Me demanda-t-il d'une voix rauque. Ah, diacre, oh, je suis heureux de vous voir. Je reviens de l'enfer. L'homme chose, l'horrible chose. Ah, c'est donc bien vous qui avez poussé ce cri? Oui, sans doute. Oh, il a secoué la maison et terrifié les domestiques. Et frottant une allumette, il alluma la lampe. Oh, nous pourrions ranimer le feu, ajouta-t-il en jetant des bûches sur les braises. Bon Dieu, mon cher, mais vous êtes tout pâle. Viendriez-vous le voir un revenant? Oh, ce n'est pas un revenant que je viens de voir, mais plusieurs. Ah, l'entonnoir de cuir a donc opéré. Oh, je ne voudrais pas pour tout l'or du monde revoir cette nuit infernale. Dacre ricana. Diacre ricana. Oh, je pensais bien, dit-il, que vous devriez une nuit mouvementée. Vous n'avez d'ailleurs revu cela. Un cri comme le vôtre, à 2 heures du matin, n'a rien de drôle. J'imagine, d'après vos propos, que vous avez vu toute l'effroyable affaire. Quelle effroyable affaire! Mais la torture de l'eau, la question extraordinaire, comme on disait au bon temps du roi Soleil. En avez-vous eu le spectacle jusqu'au bout? Oh non, Dieu merci. Je suis réveillé avant que rien n'eût effectivement commencé. Pas autant vaut-il pour vous. Moi, pour mon compte, je suis allé jusqu'au 3e banquet. Oh, c'est l'histoire ancienne. Tous les acteurs du drame sont aujourd'hui dans la tombe. Comment nous les retrouvons ici? Voilà ce qu'il faudra savoir. Vous avez, je suppose, aucune idée de ce que vous avez vu. La torture infligée à une femme criminelle est terriblement cruelle, sans doute, si ses crimes furent proportionnés à la peine. Nous avons cette petite consolation, dit Dacre, ramenant autour de lui les plis de sa robe de chambre et se blottissant contre le feu. Ses crimes furent proportionnés à sa peine, en admettant du moins que je ne fasse pas erreur sur la personne. Mais comment la connaîtriez-vous? Pour toute réponse, Dacre prit dans la bibliothèque un vieux volume à couverture de vélin. Écoutez ceci, dit-il, c'est du français du XVIIe siècle. Je vous le traduis tant bien que mal. Vous jugerez si j'ai ou non déchiffré l'énigme. La prisonnière fut conduite par devant les grandes chambres et tourelles du Parlement, siégeant comme cour de justice, à l'effet d'y être interrogée sur le meurtre de M. Dreux d'Albret, son père, et de M. Aubray, ses frères, l'un conseiller au Parlement, l'autre lieutenant civil. Il sembla malaisé de croire qu'elle eût commis de tels forfaits. À voir sa petite taille, sa peau blanche et ses yeux bleus. Cependant, la cour, l'ayant reconnue coupable, la condamna à la question ordinaire et extraordinaire, afin qu'elle désignât de force ses complices. Ensuite de quoi, elle se serait portée en place de grève pour y être la tête tranchée, son corps brûlé et ses cendres jetées au vent. Bien, ceci est daté du 16 juillet 1676. Intéressant, dis-je, mais non pas concluant. Où trouvez-vous la preuve que la femme du livre et la mienne n'en font qu'une? J'y arrive. La suite du récit précise l'attitude de la femme durant la question. Lorsque l'exécuteur s'approcha, elle le reconnut aux ordres qu'il portait, aux cordes qu'il portait, et lui tendit aussitôt les mains en le toisant du regard sans prononcer une parole. Que vous semble de ce détail? Oh, tout à fait conforme. Et considéra sans sourciller le vache cheval et ses anneaux qui avaient tordu tant de membres et arraché tant de cris d'agonie. Et quand ses yeux tombèrent sur les trois seaux d'eau qu'on avait apportés pour elle, « Ah, monsieur, dit-elle en souriant, il faut qu'on apporte cette eau dans le dessein de me noyer. Vous ne comptez pas en faire avaler autant une personne de ma taille. » Vous lirai-je les détails de la torture? Oh non, non, par le ciel, faites-moi grâce. Voici qui vous prouvera que la scène rappelée dans ce livre est la même à laquelle vous assistiez tout à l'heure. Le bon abbé Pierrot, incapable de supporter la vue des angoisses subies par sa patiente, s'était enfui de la salle. Cela vous convainc-il? Ah oui, tout à fait. L'événement du récit est certainement celle de mon rêve. Mais qui donc était-elle, cette femme ornée de tant d'attraits et qui eut une fin si tragique? Diacre, sans répondre, plaça la petite lampe sur la table à côté de mon lit et soulevant l'entonnoir fatal, en présenta d'abord le cuivre à la lumière. Vu de la sorte, les marques s'y détachaient plus nettes que la veille au soir. Nous avons déjà reconnu, dit-il, le chiffre d'un marquis ou d'une marquise. Nous avons établi en outre que la dernière lettre est un B. Oui, incontestablement. À mon avis, les autres lettres de gauche à droite sont deux M majuscules. Un petit. Et un A majuscule, un petit. Et derrière, un grand B. Oui, vous avez sûrement raison. Bon, je discerne très nettement les deux petits dés. Bien, ce que je viens de vous lire est le procès-verbal officiel du jugement de Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, l'une des plus célèbres criminelles de l'histoire. Je gardais le silence, bouleversé que j'étais par l'extraordinaire incident dont le sens venait de m'être si complètement démontré par Dacre. Je me rappelais confusément certaines particularités de la vie de cette femme, son goût effréné de la débauche, les longues tortures qu'elle avait infligées de sang-froid à son père malade, le meurtre de ses frères, pour de mesquines raisons d'intérêt. Je me souvenais aussi de sa fin courageuse, qui avait racheté, dans quelque mesure, l'abomination de sa vie, et que tout Paris, pris de compassion pour elle à ses dernières heures, l'avait bénie comme martyr après l'avoir maudite comme empoisonneuse. Une objection, mais une seule, me venait à l'esprit. Comment ses initiales et sa couronne marquaient-elles l'entonnoir ? Le respect pour la noblesse n'allait pas si loin qu'on décora de ses titres les instruments de torture. Oui, c'est un fait qui m'a intrigué, répondit Dacre. Il admet une explication bien simple. Le procès suscita une émotion exceptionnelle, et rien que de nature, si l'Arendi, chef de la police, tint à garder souvenir de ce sinistre entonnoir. Il n'arrivait pas tous les jours qu'une marquise de France subit la question extraordinaire. On s'explique que, pour l'édification des autres, il est gravé sur ces objets les initiales de la Brinvilliers. Et ceci, demandai-je, en montrant les égratignures sur le col de l'entonnoir. Oh, ce fut une tigresse, dit mon ami, en se retirant. Je crois bien que, comme toutes les tigresses, elle avait les dents aiguës et fortes.